Radio France Internationale. Il est 8h44 à Paris, 6h44 en temps universel. Les Polonais éliront demain leur président. Ils auront le choix entre le pro-européen et maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et le conservateur Karol Nawrocki. L'un des sujets qui pèsera dans le scrutin, c'est les enjeux de défense, de sécurité, puisque la Pologne craint une future invasion russe. Elle dénonce déjà des incursions régulières de drones russes sur son territoire. Alors de nombreuses villes investissent d'ores et déjà et construisent notamment des abris anti-aériens. Reportage d'Agnieszka Kumor dans une petite commune près de la capitale.
Kristina est née à Minsk Mazowiecki juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des abris dans sa ville natale.
Jamais entendu parler. Secret défense, je dois dire que vous êtes la première à m'en parler. Est-ce qu'on a besoin de ces abris? À l'heure actuelle, cela ne se discute pas.
Barbara, propriétaire d'un point photo, abonde.
Notre ville abrite une base aérienne avec un escadron du 1er régiment d'aviation de chasse. Ils sont là pour défendre Varsovie. Si la Russie attaque, cette base sera la première à être visée. Alors, les abris, parlons-en, monsieur le maire.
Martin Jakubowski, le maire de cette ville de 30 000 habitants, tient un discours rassurant. C'est sous un immeuble d'habitation dans le centre-ville qu'il nous a donné rendez-vous.
Nous sommes dans un abri anti-aérien d'une capacité de 55 personnes construit dans les années 50. Nous avons franchi cette double porte étanche. Ce que vous entendez, c'est la pompe à air. Voici des stocks d'instruments de mesure et de communication, comme la radio. Les murs de 2 mètres d'épaisseur laissent passer le réseau mobile et protègent contre une attaque chimique. L'endroit est équipé d'un réservoir d'eau potable et d'une voie d'évacuation. Mais la guerre en Ukraine nous a appris que les lieux les mieux adaptés à la protection des civils sont les parkings souterrains ou les stations de métro.
Construire ces infrastructures dites à double usage, adapter d'autres lieux qui peuvent servir de refuge, est un vrai défi pour la ville de Minsk. Mazowiecki, soupire Marek Heller, ancien colonel de l'armée de l'air et chef de cellule de crise locale.
Pour que les gens se sentent en sécurité, il faut intégrer la notion de danger à la stratégie nationale. Et celui-ci est réel. Planifier ces travaux engendre des dépenses, mais il faut que l'on soit prêt pour y faire face.
La Pologne compte débourser plus de 2 milliards d'euros par an pour la construction d'abris. Un plan national devrait être déployé dès l'été prochain, mais le pays devra accélérer la cadence s'il veut égaler en la matière la Finlande et la Suède, qui, elle aussi, redoute une possible offensive russe.
Le reportage international d'Agnieszka Kumor.
RFI, toute l'actualité, Marion Kazanov.
8h47 à Paris, à la une, ce samedi 31 mai, l'événement foot le plus attendu de l'année. La finale de la Ligue des Champions, ce soir, finale inédite entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan, à suivre dans une soirée spéciale sur RFI, sur notre site. Et vous pouvez réécouter aussi notre entretien avec Bonaventure Kalou, ancien joueur du PSG entre 2005 et 2007. Il était notre grand invité international il y a quelques minutes. L'actualité au Proche-Orient, où Israël exhorte le Hamas à accepter la proposition américaine de trêve et de libération des otages. En attendant, le ministre israélien de la Défense indique que l'armée poursuit ses opérations de toute sa force, tandis que l'ONU parle de la bande de Gaza comme l'endroit le plus affamé du monde. J-1 avant le second tour de l'élection présidentielle en Pologne. Les derniers sondages d'opinion prédisent un résultat très serré entre le centriste Rafał Trzaskowski et son rival conservateur Karol Nawrocki. C'est l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde, celle entre l'Afrique de l'Ouest et l'archipel espagnol des Canaries. 46 000 migrants irréguliers y sont arrivés l'an dernier en traversant l'Atlantique au péril de leur vie. Des centaines d'autres y ont d'ailleurs laissé la leur. Ils partent du Sénégal, de Mauritanie, parfois du Sahara occidental, ce territoire au sud du Maroc considéré comme non autonome par l'ONU. Si les autorités tentent sur place de contrôler ces flux irréguliers, les départs restent fréquents. Reportage dans la plus grande ville de la région, Laayoune, de François Umferkataji.
Le désert, puis l'océan. Dans les environs de Laayoune, le trait de côte se résume à cette simple barrière naturelle. Il n'est pas difficile d'y faire partir un bateau pneumatique à moteur. Si le trajet pour rejoindre les îles Canaries peut durer près d'un mois au départ du Sénégal ou de la Mauritanie, il faut compter seulement 9 à 10 heures au départ de l'Ayoun, explique Tahia Abdelkebir, président de l'association Sakia Amra pour la migration et le développement.
Bon, le Maroc, il a installé des postes de surveillance chaque 2 km parfois. On trouve un poste de surveillance, mais malgré tout ça, ce sont les mafias qui arrivent à faire le passage parce qu'ils ont maintenant des matériaux qui sont aussi spécifiques.
Les mafias organisent des arrivées de nuit dans des convois chargés de candidats au départ pour déjouer la vigilance des autorités, selon ce Ouest-Africain résident de l'Ayoun, en contact régulier avec les migrants.
Quand ils voient que la marée est basse ici, donc ils font une descente ici et ils empruntent des camionnettes, c'est comme un transport, mais ils font ça tard de la nuit. Dans une Jeep, par exemple, peut mettre au moins plus de 50, 60 personnes dans la Jeep et ils vont rouler de nuit pour les faire entrer dans la ville ici.
Une traversée est estimée entre 4 et 6 000 euros par personne, des années d'économie pour certains travailleurs migrants.
La plupart de ceux qui arrivent ici ont une seule envie, ont un seul objectif, c'est de passer par les îles Canaries, passer par l'eau et rejoindre l'Europe.
Pourtant, la route atlantique est extrêmement dangereuse. Selon l'ONG espagnole Caminando Fronteras, plus de 10 000 personnes ont perdu la vie en 2024, dont plus d'un millier au départ du Maroc.
Quand les gens arrivent à pouvoir traverser, ils mettent des images. Ah, mon beau Afrique, ça dit qu'il est arrivé de l'autre côté. Mais quand c'est pas bon aussi, on met aussi les images de ceux qui sont morts et autres, ceux que la mer a refoulés, tout ça et autres. Et quand on voit, c'est vraiment choquant, quoi, parce que ça peut être, moi, vous pouvez voir plusieurs personnes, au moins 50 personnes, 60 personnes, les gens sont décédés comme ça.
Si environ 6 000 migrants ont pu trouver du travail et s'installer durablement plus au sud, à Darla, les autorités marocaines mènent régulièrement des opérations de refoulement à l'Ayoun dans le but d'endiguer les départs. François Mferkataji, de retour de l'Ayoun, RFI.
Radio France Internationale, il est 8h51 à Paris, 2 heures de moins en temps universel. Après des mois d'incertitude, la Maison des Mondes Africains a trouvé des locaux à Paris. Ce nouveau lieu culturel ouvrira en septembre et à sa tête, la journaliste et réalisatrice Lise Gomis, qui défend un projet culturel mais aussi de mémoire, de transmission. Lise Gomis est notre invitée Afrique ce matin. Elle répond aux questions de Christina Okello.
Lise Gomis, bonjour.
Bonjour.
Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore très bien, Mansa, c'est quoi ?
Alors Mansa, c'est quoi Mansa ? C'est une institution culturelle, c'est également un lab. L'idée, c'est de pouvoir donc monter un centre qui sera pluridisciplinaire et qui croisera aussi bien les arts du spectacle que la littérature, que le cinéma. Et donc Mansa, c'est ça, c'est le nom de l'institution, c'est Maison des Mondes Africains. Donc quand on dit Mondes Africains, on parle de la Caraïbe, on parle des Amériques, Nord et Sud, on parle de l'océan Indien et on parle évidemment de la diaspora européenne. L'idée, c'est aussi de découvrir parfois, pour un public plus jeune, ce sera aussi notre mission que d'avoir une mission, j'allais dire, un peu d'éducation et toujours de le faire sous le prisme de la culture qui permettra, je pense, de permettre à certaines personnes de se libérer un peu de l'exigence parce qu'on a toujours le sentiment qu'il faut avoir lu Achille Mbembe pour pouvoir entrer dans ces sujets-là, alors qu'en fait on peut y entrer par différents biais, on peut y entrer par des œuvres d'art, des moments d'exposition, donc voilà, ce sera un bouillonnement de culture.
Vous faites référence à Achille Mbembe qui est à l'origine de ce projet. Comment a-t-il évolué depuis ce premier jet ?
Achille, effectivement, est à l'initiative de ce projet. Et puis ensuite, j'ai vite été mise à contribution pour écrire notamment le rapport de préfiguration. Voilà comment le projet a évolué. Et effectivement, je peux dire, j'y ai mis toutes mes tripes. Et j'y ai également mis une part de moi parce que, quelque part, dans Mansa, c'est un peu l'institution que j'attendais quand j'avais 20 ans. C'est l'institution qui m'aurait permis, il y a 20 ans, de mieux comprendre qui j'étais en tant que Française dont les parents sont nés sur le continent africain et qui parfois avait du mal à trouver sa place. Aujourd'hui, j'en ai 24 de plus, donc je me pose plus cette question, mais je sais que c'est une question qui continue de perturber et parfois questionner des jeunes gens et des jeunes femmes qui sont pleinement français et qui se posent toujours la question de quelle est leur place dans le pays dans lequel ils sont.
Vous parlez de cette difficulté à trouver sa place. Comment faire entendre cette voix-là dans une France où les crispations identitaires s'accentuent ?
Alors, c'est toujours compliqué de monter un projet déjà en premier lieu. Évidemment que on le sait bien que le sujet, j'allais dire, Afrique et ses descendants, ça crispe. Mais en fait, moi, j'ai juste envie de dire aux Français, ayez de la mémoire. Et ayez de la mémoire et rappelez-vous qu'à un moment donné, on était content d'avoir des tirailleurs sénégalais. Rappelez-vous qu'on était très heureux d'aller voir Joséphine Baker sur scène. Rappelez-vous que Manu Dibango était le directeur musical de la seule émission musicale de l'ORTF. Rappelez-vous de tout cela. En fait, moi, je suis juste juste là pour dire, nous avons une mémoire, et la mémoire est celle-ci. Si on fait le choix de se replier en invoquant finalement, quelque part un peu un fantasme, hein, d'une France qui aurait toujours été monochrome, c'est un mensonge qu'on se fait. Ça a toujours été un brassage, ce pays. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, finalement, avec Mansa, c'est juste rappeler les Français à leur histoire.
Et comment est financé Mansa ?
Alors, pour l'instant, c'est la puissance publique. Donc, nous sommes en train de monter notre cellule de mécénat, parce qu'il s'agit aussi d'aller chercher et d'aller lever des fonds privés. Mais pour le moment, oui, nous sommes financés par la puissance publique.
Qu'est-ce qui vous porte personnellement dans ce projet ?
Ce qui me motive, ce sont mes parents. C'est le parcours de mes parents. C'est de se dire qu'une femme qui s'appelle Émilie Mendy, qui est partie de Guinée-Bissau, qui est arrivée au Sénégal à l'âge de 12 ans, qui est ensuite arrivée en France à l'âge de 19 ans, qui a fait des ménages et qui s'est battue en fait toute sa vie pour à la fois en avoir une et une vie digne, et qui s'est aussi battue pour que ses enfants soient sur un chemin qui soit également digne. Et donc moi, en fait, ma motivation, c'est de me dire, je ne peux pas décevoir finalement ce parcours. Donc moi, ma motivation première, c'est celle-ci. C'est d'abord quelque part rendre hommage à mes parents. Et la deuxième motivation, c'est maintenant je regarde derrière moi et je vois les plus jeunes et je me dis, je ne peux pas me dire que ces plus jeunes vivront le même parcours que le mien. Je suis obligée d'être à la hauteur. Voici ce qui me motive tous les matins et qui fait que je me lève et que je me bats pour que cette institution existe, parce qu'on a besoin de rôle modèle. Je ne sais pas si je suis un rôle modèle, mais de voir les stagiaires d'observation qu'on a pu avoir nous renvoyer des messages en nous disant, j'ai eu 20 sur 20 à mon rapport de stage et c'est grâce à vous, et vraiment Mansa, c'est quelque chose, j'aimerais bien faire mon stage également de seconde chez vous, alors que ce sont des gens qui sont motivés par le football et qui m'ont dit, non mais Mansa, c'est bien, j'ai pas envie d'aller faire un stage dans un club de foot ou à la fédération. Pour moi, ça, ce sont des victoires, parce que pour une fois, ils se sont dit, ok, je fais un stage d'observation, la directrice est une femme d'origine africaine, elle ressemble à ma sœur, elle ressemble à ma mère, elle ressemble à ma tante, et en fait, c'est possible.
Lise Gomis, merci.
Merci à vous.
La journaliste et réalisatrice Lise Gomis était notre invitée Afrique ce matin. Elle répondait aux questions de Christina Okello. La chronique média, Amaury de Rochegonde. Aujourd'hui, les menaces sur l'audiovisuel public, illustration dans trois pays. On commence par les États-Unis.
Oui, l'administration Trump, on le sait, cherche à couper tout financement à son audiovisuel public, c'est-à-dire à Voice of America, à Radio Free ou à NPR et à la chaîne PBS. Pour Donald Trump, ces médias auraient une couverture biaisée et partisane, ils se seraient montrés partiaux pendant les élections ou sur les questions transgenres. Bref, ils sont de gauche et soutiendraient les démocrates avec l'argent des contribuables. Mais les médias publics ont saisi la justice au nom de la liberté de la presse, garantie par le Premier Amendement, et un juge fédéral de Washington a déjà obtenu en avril le rétablissement de Voice of America, promis au démantèlement par décret présidentiel. Le réseau de radio NPR, qui alimente un millier de stations locales, a aussi saisi la justice pour sauver son financement fédéral, financement qui ne représente que 10% de ses revenus, mais dont l'arrêt pourrait conduire à la fermeture de stations dans des régions où NPR est parfois le dernier média d'information.
En Pologne et en Hongrie, il y a déjà une reprise en main de l'audiovisuel public.
Oui, en Hongrie, avec des proches de Viktor Orban à la tête des médias publics, mais aussi avec des purges parmi les journalistes et la marginalisation des voix d'opposition, des atteintes à l'état de droit qui ont compté dans la décision de la Commission européenne de geler ses subventions à la Hongrie. Quant à la Pologne, où aura lieu dimanche le second tour des élections présidentielles, elle a déjà connu une mainmise sur son audiovisuel public lors de 8 années de pouvoir du PiS, le parti droit et justice, de 2015 à 2023. Là aussi, direction et rédaction ont subi pression et contrainte, et les médias publics ont été des instruments pour calomnier l'opposition.
Des menaces existent aussi en France, Amaury.
Il suffit de lire cette semaine ce titre éloquent du JD News, hebdo contrôlé par Vincent Bolloré. La propagande avec vos impôts. On peut y lire une interview de William Goldnadel, un pilier de la chaîne CNews, pour qui la seule solution, c'est, je cite, la privatisation de l'audiovisuel public. Tiens, c'est aussi ce que demande les leaders du Rassemblement national, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il y a aussi les économies exigées par les gouvernements, notamment en matière d'information et d'investigation, dans la perspective d'une loi rapprochant les médias publics. Alors, comme l'a dit Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, il peut être utile de rappeler qu'en Ukraine comme en Suède, l'information publique est considérée comme un bien tellement essentiel qu'elle relève de la défense nationale.
Amaury de Rochegonde pour la chronique média.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Elgas.
Avant les indépendances africaines, ils ont guidé la dynamique des révolutions de leur pays. Haïlé Selassie, Habib Bourguiba, Robert Mugabe, entre autres. Peraski leur a consacré un podcast devenu livre, Décolonisations africaines. Je le reçois avec Pape Ndiaye pour un état des lieux de cette histoire.
Afrique, mémoire d'un continent, tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI. Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain avec le podcast La Relève du Rire, plongé au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.